Tu as besoin d'un joli moment de détente ?
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches ? Tu hésites ? Tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes.
Sur Radio Barthès 107 FM.
Bonjour et bonne année à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat et d'actualité. Enfin, une actualité qui dure depuis très longtemps. Mais avant de développer, je tiens à vous dire d'emblée que je ne penche d'aucun côté de la balance et que la chose qui m'importe en ces temps troublés est d'affirmer que je n'ai aucune, mais alors aucune appétence, ni pour la guerre, ni pour le terrorisme, ni pour la violence. Et que, par ailleurs, ce dont je vais vous parler dépasse largement mes compétences en géopolitique et en tout cas ma toute petite personne. Voilà. Une fois prises ces précautions oratoires, eh bien, je vais vous parler cinéma. Et à l'heure où je préparais cette émission, je me disais, il se sera sans doute passé encore beaucoup de choses. Eh bien oui, c'est le cas. Mais les films que je vais évoquer ne sont pas des films récents. De quoi s'agit-il ? Free Zone de Amos Gitai, Le sel de cette mer de Anne-Marie Jassir, Le cochon de Gaza de Sylvain Estibal, Téléphone arabe de Sameh Zoabi, Dégradé de Tarzan et Aram Nasser. Qu'ont-ils en commun ? Eh bien, avec des angles et des approches différentes, ces films concernent la Palestine et Israël. Les réalisateurs, à part Sylvain Estibal, ont tous vécu ou approché la vie de cet endroit mondialement connu qui, rappelons-le, fait 28 000 km², c'est-à-dire un peu moins que la Bretagne, mais par contre trois fois plus peuplé. Tous ces films abordent de façon plus ou moins tragicomique la situation en Palestine et Israël et apporte de manière détournée des éléments concrets ou issus du réel. Pour ne pas faire de jaloux, je vais aborder ces films de manière chronologique par rapport à leur sortie dans les salles de cinéma. Le premier, Free Zone, d'Amos Gitai, est sorti en 2005. Amos Gitai est né en octobre 1950 à Haïfa, en Israël. Il a dû, comme tous les Israéliens, faire son service militaire et a fait la guerre du Kippour en 1973, où il sera blessé. Et c'est à l'occasion de cette expérience qu'il a commencé à filmer. C'est un artiste prolixe qui a produit du théâtre, du cinéma, des livres d'artistes. Quand il revient en Israël en 80, il réalise un documentaire, House, censuré par la télévision israélienne, puis il sera censuré à nouveau en 82. Dès lors, il s'installe à Paris pendant 10 ans et revient en Israël après l'élection d'Yitzhak Rabin en 1992. Le film Free Zone convoque trois femmes. Rebecca, une Américaine qui vit à Jérusalem. Anna, israélienne, chauffeuse de taxi. Leila, palestinienne. C'est un road movie qui se passe essentiellement dans le taxi d'Anna et c'est compliqué. Désœuvrée après la rupture avec son fiancé, Rebecca, qui veut quitter le pays, va se trouver embarquée par Anna, qui doit absolument aller en Jordanie récupérer de l'argent d'un business qu'elle fait avec son mari. Nous rencontrerons Leila plus tard, à leur arrivée en Jordanie. Chacune a son lot de problèmes. Rebecca, juive américaine, ne sait plus très bien où elle en est. Anna, qui a dû émigrer du Sinaï en 1982 et survit grâce à ce commerce de voitures blindées, doit faire ce voyage, car son mari a été victime d'un attentat, il est blessé, et elle va devoir rejoindre la Free Zone, lieu invraisemblable, gigantesque marché aux voitures en zone franche, près des frontières irakiennes, syriennes et saoudiennes. Leila, elle, doit gérer un beau-fils très, très en colère. En ce qui me concerne, les premières images n'auguraient rien de bon. On voit Rebecca pleurer un temps infiniment long. Mais c'est là que j'ai commencé à accrocher, car en fond sonore, on entend une comptine lancinante. C'est une chanson traditionnelle en hébreu qui dit en substance « Le bâton brûle pour avoir tapé le chien qui avait mordu le chat, qui avait dévoré l'agneau. » Et ça se répète, ça se répète. Et puis, à la fin, on entend, via les sous-titres, « Jusqu'à quand durera ce cycle infernal de l'oppresseur et de l'opprimé, du bourreau et de la victime ? Jusqu'à quand cette folie ?» Il s'agit de « Ad Gadia », chantée par Shava Halberstein, chanteuse israélienne. Le voyage des deux femmes passe évidemment par des frontières, donc des tracasseries, où il faut beaucoup expliquer, justifier, faire très attention à ce que l'on dit. Amos Gitai joue sur la surimpression d'images pour faire surgir le passé de chacune. Les femmes se montrent malines, fortes et gèrent finalement des situations complexes, en particulier Anna, femme courageuse et obstinée. La Free Zone existe vraiment, c'est un lieu improbable où cohabitent toutes les nationalités du Moyen-Orient pour un commerce gigantesque de voitures et en dehors de tout conflit. C'est à la fois glauque et réjouissant. Et puis évidemment, ce sont les rapports entre ces femmes, ce sont également ces paysages étranges. C'est prenant et fort et toujours un peu déconcertant de voir par exemple Anna gérer son voyage avec tous les embarras et comment elle surmonte des situations qui paraissent insurmontables. Et bien sûr, c'est la rencontre entre des cultures et des vies différentes. Amos Gitai nous offre une toute petite lueur d'espoir. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est « Le sel de cette mer » de Anne-Marie Jassir. Il est sorti en 2008. Anne-Marie Jassir, réalisatrice, productrice, autrice, est née à Bethléem en 1974. Elle a fait des études à l'École internationale d'Arabie Saoudite, puis a été au collège et lycée au Texas et fait des études supérieures à la Columbia Université de New York. Elle dit « Mes souvenirs d'enfance les plus pénibles et humiliants sont le passage du pont entre la Jordanie et la Palestine en famille, année après année. Elle a été interdite de séjour en territoire palestinien après la sortie de son film. Alors ce film, c'est une Américaine, Soraya, dont les parents sont des réfugiés palestiniens qui vivent aux États-Unis et qui vient pour la première fois dans la patrie de sa famille à Jérusalem et en Cisjordanie. Fiction et réalité du quotidien des territoires palestiniens s'entremêlent. Certaines situations sont inspirées par l'histoire de la réalisatrice. Soraya a une vision fantasmée de la Palestine et elle va rencontrer Emad, qui lui veut fuir à tout prix ce pays, mais n'a pas le droit de quitter la Cisjordanie. C'est un road trip qui met en scène la course et la fuite de trois personnages, puis deux, qui font voler en éclats la vie formatée des territoires occupés. Il y a des moments glaçants, notamment au début, où on voit Soraya contente d'arriver et perdre sa bonne humeur, car elle va se faire fouiller de manière humiliante à l'aéroport. Il y a aussi des moments jubilatoires, une sorte d'insouciance et de provocation, des moments de fragilité et des moments de cruauté. Les deux protagonistes se jettent avec douce folie dans l'illégalité. Il y a aussi un passage étonnant, où le copain d'Emad qui les accompagne dans leur cavale va rester auprès d'une Israélienne qui vit dans l'ancienne maison de la famille de Soraya. C'est un peu rock'n'roll, avec toujours des petites touches de réalité, mais toujours dans l'humour ou l'ironie. À l'époque, le journal Télérama parlait d'un récit entre profonde tristesse et espoir fou. Anne-Marie Jassir rapporte les propos d'un Palestinien de 50 ans qui disait « Dans votre film, j'ai vu ce que j'ai essayé de voir toute ma vie. J'ai vu la Palestine. Vous avez réussi ce que nous n'avons jamais réussi à faire. » Le film n'a pas été facile à réaliser. Certaines scènes ont été tournées en faisant passer illégalement la frontière aux acteurs palestiniens de Cisjordanie. Dans le DVD, il y a un court-métrage intitulé « Like 20 Impossible ». C'est le film de thèse de la réalisatrice à la Columbia Université en 2003 qui évoque cette difficulté de faire un film. troisième film, c'est Le cochon de Gaza de Sylvain Estibal qui est sorti en 2011. Sylvain Estibal est né en 1967 à Paris. Il a la double nationalité française et uruguayenne. Il est journaliste, romancier, réalisateur. C'est en ayant vu des tonnes de moutons uruguayens chargés sur des bateaux en direction du Maghreb et du Moyen-Orient pour la fête de l'Aïd que l'idée de son film a germé. Le film raconte l'histoire d'un pêcheur palestinien qui attrape dans ses filets un cochon vietnamien tombé d'un cargo. Bien embarrassé par cet animal impur pour lui, il va quand même, au vu de son énorme pauvreté, essayer d'en tirer profit. Cela va l'amener à rencontrer une femme juive russe dans une colonie israélienne. Le réalisateur cherche à montrer l'absurdité en poussant encore plus loin l'absurdité. C'est une farce qui met face à face deux membres de deux communautés qui, a priori, ne peuvent pas se rencontrer. Le pêcheur est joué par... pêcheur palestinien est joué par Sasson Gabé, juif d'origine irakienne, qu'on a pu voir aussi dans le film « La visite de la fanfare », pour ceux qui connaissent. Derrière la dérision, il se dit des choses comme « finalement, ce cochon est pour les deux communautés un animal impur » qui ne doit toucher ni la terre israélienne, ni la terre palestinienne. Il y a aussi une rencontre improbable entre la femme du pêcheur et un soldat israélien qui finissent par regarder ensemble un feuilleton à la télé. Mais ce film montre aussi l'extrême pauvreté, l'occupation, l'intégrisme, mais tout cela sous une forme comique qui soulage un peu la gravité du sujet. Le film se situe à l'époque où il y avait 21 colonies juives à Gaza. Puis il y a eu ce qu'on a appelé le plan de dégagement en 2005. 8000 colons juifs ont été déplacés, ce qui d'ailleurs va se passer pour cette colonie où se trouve la jeune femme avec qui le pêcheur traficote. Le réalisateur parle de force symbolique et il dit vouloir exprimer le ras-le-bol face à une situation désespérante. Le journal Le Monde soulignait à l'époque l'aspect humaniste et bon enfant qui joue sur les ressemblances entre Israéliens et Palestiniens. Tout cela traité par le rire avec intelligence et à la fois réaliste et caricatural. Tout le monde en prend pour son grade. La fin tente une scène symbolique où on voit des danseurs de hip-hop handicapés des deux communautés dans une scène d'espoir qui sous-tend la possible entente entre les deux communautés. Alors, quatrième film, Téléphone arabe de Sameh Zouabi, sorti en 2012. Sameh Zouabi est né en 1975 à Iskal, près de Nazareth. Il est arabe-israélien et installé aux États-Unis. Il a obtenu un diplôme de cinéma et littérature anglaise à l'université de Tel Aviv, puis également à l'université de Columbia à New York. Il est scénariste. C'est une comédie douce amère sur la condition des arabes israéliens. Jodad rêve d'une vie normale, c'est-à-dire être indépendant, aller à l'université et rencontrer des filles. Mais il est nulle part, ni du côté des anciens, ni du côté des Israéliens de son âge. Car Dalwat est descendant des Arabes palestiniens qui sont restés après 1948 et qui ont eu la nationalité israélienne. Ils représentent 20% de la population israélienne, mais ils vivent beaucoup entre eux et se sentent citoyens de seconde zone. Là encore, le rire et l'absurde servent le propos. Ça parle de relations, père-fils, femme-mari, ça parle de drague, ça parle de difficultés à rentrer à l'université. Le scénario est assez lent et peu sensationnel, mais comme finalement la vie de Jadwat, qui apparaît mou et un peu bêta. Mais ça symbolise aussi cette vie des Arabes israéliens. Il y a également une histoire d'antenne, nécessaire à l'utilisation des portables, dont Jadwat fait un grand usage, installée sur un terrain appartenant à un Palestinien, ce qui met en colère le père de Djadad qui veut la supprimer. C'est aussi symbolique, c'est le symbole du peu de terre qui leur reste. Certaines critiques ont dénigré un trop-plein de bons sentiments dans ce film, mais bon, ça parle quand même de la vie de ces hommes et de ces femmes dans cette région. Alors, le dernier film dont je vais vous parler, qui est plus récent, c'est Dégradé, de Tarzan et Arab Nasser, sorti en 2015. Tarzan et Arab Nasser, de leur vrai nom Mohamed et Ahmed Abu Nasser, sont des jumeaux, nés en 1988 à Gaza. Ils sont également peintres et photographes, car ils n'ont pas pu faire d'école de cinéma, et il n'y en a pas à Gaza. Ils ont fait les Beaux-Arts. Dégradé est leur premier long métrage. C'est un huis clos dans Gaza et plus précisément dans l'échoppe de Christine, émigrée russe, qui tient un salon de coiffure et de soins esthétiques. Ça cause de choses banales, de choses pas banales, il y a des vacheries, des rires, des pleurs. C'est une tragicomédie prise dans le fracas des armes, des coupures d'électricité. C'est drôle, dérangeant, parfois violent. Dehors, c'est le domaine des hommes. Et là, il se passe des choses, en effet. Dehors, c'est la guerre entre le Hamas et la mafia locale qui a volé un lion dans le zoo par pure provocation contre le Hamas. Et c'est un épisode véridique, incroyable. Le salon est le seul lieu où les femmes peuvent être elles-mêmes et se dévoiler, au sens propre comme au sens figuré. Ce sont 13 femmes très différentes qui vont cohabiter dans ce huis clos. Il y a des fêlures, des forces, des opinions, des oppositions. Femmes libérées, femmes religieuses, belles-filles, belles-mères, femmes divorcées, futures jeunes mariées. Le besoin de se faire belle l'emporte sur la peur. Pour les femmes, c'est la double, voire la triple peine. Le patriarcat, le Hamas et la prison à ciel ouvert qu'est Gaza. On a un mélange de drame et de comédie. Le conflit est toujours latent, mais ça n'en parle pas. Le titre Dégradé exprime un double sens. Le choix ou pas de la coiffure de la future mariée et la situation catastrophique qu'elles sont en train de vivre. Le film a été tourné en Jordanie et les réalisateurs ont dû quitter Gaza où ils sont interdits de séjour. De ces 5 films, je pense que c'est Dégradé qui est le film le plus ancré dans la réalité et sans doute le moins drôle. Enfin, les réalisateurs n'avaient que la télé. Et à Gaza, je cite, c'est le père qui tient la télécommande. Donc ces deux jumeaux se sont donc battus pour avoir une télé pour eux tout seuls. Et le premier film qu'ils ont vu était un film porno israélien. En conclusion, je dirais que tous ces films n'abordent pas de plein pied la situation de la Palestine et d'Israël, mais tous ont choisi une approche sous forme d'humour ou d'absurdité pour organiser leur récit. C'est souvent suggéré et chacun peut y prendre les informations selon sa philosophie. Sauf pour le film Dégradé, il y a toujours en filigrane l'utopie de la possible entente et rencontre entre Palestiniens et Israéliens et l'espoir qu'un jour peut-être, mais bon, quand on voit ce qui se passe en ce moment, voici ce qu'ils en disent, ce qu'en disent les réalisateurs. Tarzan. L'art, c'est ce qui reste quand une civilisation disparaît. Samé Zoabi. Ce n'est pas du tout un effort de faire une comédie, c'est juste la seule façon de survivre. Anne-Marie Jassir, je veux faire des films qui posent des questions et nous fassent soulever des problèmes qui nous mettent mal à l'aise. Nous ne sommes pas des victimes, mais nous ne sommes pas non plus des héros. Personne n'est une seule chose. Et enfin, Amos Gitaï, la menace du Hamas est une tragédie pour Israël, mais aussi pour les Palestiniens. Le seul chemin possible est celui du dialogue. Tous ces films dont je viens de vous parler, je les ai empruntés à La Nouvelle Dimension de Florac.
Vous écoutez
Le Chaudron des Découvertes
sur Radio Bartas, 107FM.
Maintenant, si vous voulez creuser davantage la question ou mieux comprendre, il y a des revues qui traitent de cette actualité brûlante. Le Nouvel Obs, Libération et l'Humanité ont développé des dossiers sur cette question avec des interventions des différents protagonistes, ce qui permet d'entendre un autre son de cloche, comme l'existence d'associations israélo-palestiniennes et de militants de la paix. Pour exemple, dans l'Humanité, il y a donc un hors-série décembre 2023 où un enseignant israélien, Saul Mossand, qui est donc enseignant à la faculté de Tel Aviv et défenseur de la paix, nous dit « La négociation est la seule voie pour la survie d'Israël. Ma position est que sans les Palestiniens, Israël ne peut pas vivre et disparaîtra. » Il y a un autre article dans le Libé des solutions des 30, 31 décembre et 1er janvier 2024. C'est l'histoire d'un couple israélo-palestinien, un couple de réalisateurs qui vivent à Tel Aviv. Ils n'ont pas choisi d'être citoyens de l'État hébreu. Elle, Naïef, donc juive, est née à Tel Aviv, et lui, Gal, palestinien, à Haïfa. Voici ce qu'ils disent. En Israël-Palestine, trouver l'amour entre les fractures et clivages qui se construisent dès l'enfance, dans les têtes, comme dans les dossiers aveugles de l'État civil, relève presque de l'impossible. Mais pour nous, c'était grisant de simplicité, dit Cal posément. Jusqu'à ce que peu à peu la réalité s'immisce dans leur relation, comme une lente douche froide, qu'on réalise qu'être ensemble, ce n'est pas véritablement un problème. Mais pour le monde extérieur, si. Enfin, un autre magazine que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Âge de Fer, alors Fer, F-A-I-R-E, hein, journal totalement indépendant, qui a concocté un dossier intitulé « Bas les armes ». Voici ce qu'en dit un historien, donc dans ce fameux Âge de Fer, donc l'historien Arnaud-Dominique Hout. Pacifisme et antimilitarisme n'ont pas le vent en poupe. La guerre est devenue une chose lointaine, presque une fatalité qui nous échappe. Elle est pourtant menée en notre nom, avec notre argent et grâce à notre travail. Dans ce dossier, il y a également un article qui évoque l'Observatoire des armements, fondé en 1984 à Lyon. En ce moment, ils enquêtent sur une myriade d'entreprises françaises dans l'industrie de l'armement, à travers la production de biens à double usage, civil et militaire, notamment électronique. Or, les composants électroniques renforce la dangerosité des armes. L'appellation « bien à double usage » permet de masquer l'implication de la France dans les conflits. Bref, on y apprend pas mal de choses. Et, par exemple, que dans les années 70-80, des syndicats, donc de travailleurs des usines d'armement, avaient planché sur la reconversion des activités, comme par exemple la recherche océanographique. Malheureusement, le plan n'a pas été jugé assez rentable. Voilà, pour finir, je vais vous lire un poème de Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien né en 1941 et décédé en août 2008. Il est paisible, moi aussi. Il sirote un thé citron, je bois un café. C'est ce qui nous distingue. Comme moi, il est vêtu d'une chemise rayée trop grande. Comme lui, je parcours les journaux du soir. Il ne me surprend pas quand je l'observe de biais. Je ne le surprends pas quand il m'observe de biais. Il est paisible, moi aussi. Il parle au serveur, je parle au serveur. Un chat noir passe entre nous. Je caresse la fourrure de sa nuit. Il caresse la fourrure de sa nuit. Je ne lui dis pas « le ciel est limpide aujourd'hui ». Il ne me dit pas « le ciel est limpide aujourd'hui ». Il est vu et il voit. Je suis vu et je vois. Je déplace ma jambe gauche. Il déplace la droite. Je fredonne une chanson. Il fredonne un air proche. Je me dis « est-ce le miroir dans lequel je me vois ?» Puis je cherche son regard, mais il n'est plus là. Je quitte précipitamment le café et je me dis « c'est peut-être un assassin ou peut-être un passant qui m'a pris pour un assassin. Il a peur, moi aussi. »
ששחט את השור, ששתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שחבט בכלב, שנשך לחתול, שטרף את הגדיל,
שאבינו... Eh bien, au revoir et à une prochaine séance peut-être plus optimiste.
Tu as besoin d'un joli moment de détente?
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches? Tu hésites? Tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.